VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, au moins 6 civils ont été tués lundi dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais des ADF, les forces démocratiques alliées, dans un village de l'est du pays. C'est ce que rapportent ce mardi des sources locales. Selon Bernard Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu, les ADF ont fait irruption dans le village de Kiteiva hier à partir de 16h. Heure locale, 14h, temps universel. Et le bilan provisoire fait état de 6 morts, tous des civils tués à l'arme blanche, 2 blessés et un centre de santé pillé. Cette version a été confirmée par la présidente de la société civile de Beni, Noëlla Kadson-Gerwaki, qui a précisé que les victimes étaient 2 hommes et 4 femmes. Interrogé par l'AFP, le capitaine Makazuka, porte-parole de l'armée nationale dans la région, a confirmé l'attaque, mais sans prononcer de bilan. Kiteiva est un petit village situé à 33 km au nord de la ville de Beni. Depuis octobre 2014, environ 700 personnes ont été tuées, essentiellement à l'arme blanche et à la machette, dans une série de massacres ou d'attaques attribuées aux ADF ougandais. En Côte d'Ivoire, plus qu'une demi-heure seulement à attendre avant l'annonce du résultat du référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Mais avec le boycottage de l'opposition, le oui est largement en tête selon les résultats partiels. Jean-Roger Bion.
Après la lecture de plusieurs dizaines de procès-verbaux, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a remis vers 1h30 local et GMT à mardi 13h30 l'annonce des résultats de 15 des 31 régions restantes. Les résultats partiels annoncés laissent apparaître que le oui est largement en tête alors que le taux de participation varie selon les départements, mais il est encore impossible de donner des chiffres fiables, la masse des résultats manquants étant trop importante. L'issue du référendum ne fait toutefois aucun doute. Avec le boycottage de l'opposition, le taux de participation des 6,3 millions d'électeurs appelés aux urnes étant le véritable enjeu du scrutin. Dans un communiqué officiel, la Commission avait rappelé dans la journée qu'elle est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires du scrutin. Les deux coalitions de l'opposition ivoirienne n'ont, elles, pas attendu, donnant dès dimanche soir leurs estimations respectives. Pour l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, AFDCI, le taux de participation est entre 6 et 7%.
Sahel, un Roubain retenu en otage depuis plus d'un an par les djihadistes d'Al-Mourabitoun de l'islamiste algérien Mokhtar Belmokhtar, est apparu dans une vidéo publiée lundi dans laquelle il demande à son gouvernement de tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération. Julian Gergout était officier de sécurité dans une mine de manganèse de Tambao dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger et le Mali, quand il a été enlevé le 4 avril 2015 par 5 hommes armés. Son rapt avait été revendiqué par Al-Mourabitoun, un groupe lié à Al-Qaïda. En 2-2, l'insurrection populaire au Burkina Faso qui a mis fin à 30 ans de pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré. La réconciliation au pays désormais intègre passe par la reconnaissance de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la patrie. On écoute Roch Marc-Christian Kabore, président du Burkina Faso.
Cet hommage est un hommage, je dirais, à vie, parce qu'ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Et je dois dire que ce qui est constant, ce qui est permanent dans la bouche des Burkinabés, c'est qu'il faut que la justice soit rendue. Aucun moyen matériel ne remplace la vie humaine. Et c'est pourquoi nous devons tous être engagés à ce que la justice soit rendue et que ces familles puissent retrouver la paix du cœur. Il est clair que ce sera à travers la vérité, la justice véritable, que nous pourrons nous réconcilier. J'ai pris l'engagement que toutes ces personnes, plus d'une centaine de personnes qui ont encore des problèmes à régler, nous allons trouver les solutions pour qu'ils soient soignés et qu'ils puissent apporter leur pierre à la construction du Burkina Faso.
Roch Marc-Christian Kabore, président du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les États-Unis ont prolongé d'un an leurs sanctions à l'encontre du Soudan, mais n'excluent pas de les lever à n'importe quel moment si des progrès sont accomplis par ce pays d'Afrique. C'est tard lundi soir que le président américain Barack Obama a annoncé avoir prolongé ses sanctions d'un an à compter de jeudi 3 novembre. Le Soudan est soumis depuis 1997 à un embargo commercial de la part des États-Unis qui accusait alors Khartoum de soutenir des groupes islamistes violents. L'ex-chef du groupe djihadiste Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, était basé à Khartoum entre 1992 et 1996. Par la suite, les États-Unis ont dénoncé les tactiques du pouvoir soudanais dans le conflit qui l'oppose à des minorités rebelles dans la région du Darfour. Conflit en Libye, les forces libyennes qui tentent depuis mai dernier de reprendre Sirte au groupe État islamique donnent l'assaut depuis lundi au dernier quartier encore contrôlé par les djihadistes, tout en soulignant leur intention de tout faire pour épargner la population civile. Les attaquants, essentiellement des combattants de Misrata, bénéficiant de l'appui aérien des États-Unis, ont déclaré dans un communiqué faire face à une résistance désespérée au fur et à mesure de leur progression dans le secteur de Giza-Baria, truffé de snipers et de voitures piégées. À Londres, les chefs de la diplomatie américaine, britannique, italienne, émiratie et saoudienne ont rencontré le premier ministre libyen Fayez Sarraj pour lui exprimer leur soutien, alors que le gouvernement d'entente nationale qu'il dirige peine à imposer son autorité en dehors de Tripoli. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a demandé au chef de l'État tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine, de transmettre aux États membres la demande d'adhésion à l'organisation panafricaine présentée par Rabat. Les détails avec Nathalie Barge.
Cette demande d'adhésion a été déposée le 22 septembre auprès de la Commission de l'Union africaine. Kossa Zana Dlamini-Souma aurait dû la transmettre promptement, mais ne l'a pas fait, laissant entendre un communiqué du cabinet royal. Mohamed VI a demandé à Idriss Déby d'intervenir auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour la distribution à l'ensemble des États membres de la demande d'adhésion du Maroc, indique le communiqué. Monsieur Déby a réagi positivement et fera le nécessaire, affirme le cabinet. Le Maroc avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Mi-juillet, Mohamed VI avait souhaité que son pays revienne au sein de l'Union africaine sans renoncer à ses droits sur le Sahara occidental. Il est actuellement en tournée africaine. Une étape à Addis Abeba a toutefois été reportée à fin novembre, selon le cabinet du roi du Maroc.
Maroc, toujours 11 personnes ont été présentées à un juge d'instruction dans l'affaire de la mort vendredi dernier de vendeurs de poissons écrasés accidentellement dans une benne ordure, drame qui a suscité une vive émotion dans le pays. Le procureur général du roi à Alhoceima dans le nord a annoncé dans un communiqué avoir décidé de déférer devant le juge d'instruction 11 personnes pour faux en écriture publique et homicide involontaire suite au décès de Mohsine Fikri. Présidentielle américaine 2016, maintenant la démocrate Hillary Clinton et son adversaire républicain Donald Trump continuent leur bras de fer au sujet de la décision du directeur du FBI et la police fédérale de rouvrir l'enquête sur les emails de Mme Clinton. Le point avec Timothée Donangmaï.
La controverse des emails de Hillary Clinton domine le nouveau cycle de la course à la Maison-Blanche. Le républicain Donald Trump s'en sert pour intensifier ses attaques contre son adversaire démocrate. Pour l'homme d'affaires devenu politicien, l'élection de l'ancienne secrétaire d'État à la présidence aboutirait à une crise institutionnelle dans la mesure où, dit-il, celle-ci ferait probablement l'objet d'une longue enquête judiciaire. Verdict de Donald Trump, Hillary Clinton n'est pas qualifiée pour diriger les États-Unis. La candidate démocrate, elle, tente de maintenir le cap au cœur de cette nouvelle tourmente. Il n'y a absolument rien dans ce dossier des emails.
I think most people have decided a long time ago what they think about all of this.
Et la plupart des gens ont tiré leurs conclusions il y a longtemps à ce sujet, a déclaré Mme Clinton lundi, assurant qu'elle ne cherche nullement à se donner des excuses pour avoir utilisé un serveur privé lorsqu'elle était au Département d'État. L'ancienne secrétaire d'État ne mâche pas ses mots au sujet de son adversaire républicain. Imaginez-le dans le bureau ovale, faisant face à une véritable crise, a-t-elle lancé à ses partisans lundi. Estimant que cette affaire pourrait nuire à leur candidate, les leaders démocrates ont demandé au directeur du FBI de publier toutes les informations dont ils disposent à ce propos.
Conflit en Irak pour terminer, les forces d'élite irakiennes vont tenter d'atteindre pour la première fois ce mardi Mossoul, le dernier grand bastion de l'État islamique dans le pays où les djihadistes sont appelés à se rendre ou mourir, selon le Premier ministre irakien. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.